Alors, c'est la deuxième fois que je viens. J'étais venu il y a un peu plus d'une année. J'étais venu en janvier 2023 pour partager un message. Et c'est une joie, voilà, de revenir parmi vous. Et pour vous dire quelques mots quand même de moi, donc je m'appelle Tsir Morvan. Je travaille à la paroisse réformée de Corsier-Corzeau. Voilà, pour ceux qui connaissent. Voilà, magnifique. Il y a quelques années, c'est ça. Une belle église, une belle paroisse. Et puis voilà, donc j'aimerais vous remercier pour votre ouverture d'esprit, d'accueillir parmi vous quelqu'un qui vient du milieu protestant réformé. Mais en vous voyant, je me dis que nous avons au moins deux points communs. Le premier, c'est que nous confessons le Seigneur Jésus-Christ. Et le deuxième, c'est que nous avons la peine à remplir le premier rang. Ça se remplit plutôt par le fond. Donc voilà, je me sens à la maison, on fonctionne de la même façon, ça va très bien. Pour commencer mon message, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans une pièce ou dans une situation où vous avez soudainement surpris une conversation intime, privée entre deux personnes, et vous vous êtes dit « Oh, je ne devrais pas être là ». Je ne vais pas laisser traîner l'oreille, je vais partir. Ça m'est déjà arrivé à quelques reprises. Notamment une fois, il y a quelques années, où je participais à un grand week-end où on faisait une marche pendant plusieurs jours, entre hommes. Et puis à cette occasion, à un moment, en m'écartant un petit peu du chemin, au détour d'un rocher, d'un arbre, je suis tombé sur une conversation intime entre un père et son fils. Un père qui disait à son fils, et j'ai compris après que c'était peut-être pour la première fois, un père qui disait à son fils « Je t'aime ». Alors, je me suis gentiment écarté parce que je me suis dit « Voilà, c'est pas ma place de les déranger à ce moment-là ». Et le texte biblique que je vais vous lire et à partir duquel je vais vous partager quelques pensées m'a fait penser à cette situation. C'est un texte biblique dans lequel on entre dans l'intimité entre un père et son fils, un père qui dit à son fils son amour. Alors, entrons-y avec respect, parce que quelqu'un nous dévoile un petit peu de son intimité. Alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi ». Et c'est toi qui viens vers moi ? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. On est dans un moment intime, particulier, où un père dit son approbation à son fils. Mais ils ne sont pas que deux dans l'histoire, il y en a trois. Il y a trois personnages en particulier, en plus de Jean. On a le père, on a son fils Jésus-Christ, et on a aussi le Saint-Esprit qui vient de l'un à l'autre. Tous les trois sont présents dans cette scène et ils nous donnent un petit aperçu de la relation qui les lie les uns aux autres. Le sujet dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est la Trinité. La Trinité, un sacré mystère et aussi un mystère sacré. Cette relation qui unit le Père, le Fils, le Saint-Esprit, cette relation qu'on appelle la Trinité, c'est effectivement un mystère, mais un mystère qui nous est un petit peu dévoilé dans ce texte où Jésus se fait baptiser. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous proposer une définition de ce que c'est la Trinité. Après des siècles et des siècles et des siècles de controverses et de discussions, je vous amène enfin la définition de la Trinité. La Trinité est une. Nous ne croyons pas en trois dieux, mais en un seul Dieu, en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et la foi chrétienne tient ces affirmations ensemble. Dieu est un et unique. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Très bien, je suis au bon endroit, ça va. Donc on n'est pas polythéiste en tant que chrétien. Mais il y a une autre affirmation qui va avec. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. D'accord? On va compliquer un peu les choses. Chacune des trois personnes est Dieu tout entier. Ça veut dire que ce n'est pas le Père qui est un tiers de Dieu, le Fils qui serait un autre tiers de Dieu, et le Saint-Esprit qui serait un dernier tiers de Dieu. Et la vie d'un chrétien, c'est une vie de relation avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Alors si vous êtes un petit peu perdu, rassurez-vous, moi aussi parfois avec tout ça je le suis, et d'autres le sont. Je me souviens, il y a quelques années, quand j'étais à l'école, j'avais une professeure d'histoire et de français qui nous avait dit, à l'école publique, qu'elle était croyante, elle était chrétienne. Et une des premières choses qu'un élève lui avait posées, une des premières questions qui lui avait été posée, c'est « Mais comment vous pouvez croire que Dieu y est un et trois à la fois ?» C'est vrai, c'est un peu dérangeant et perturbant. Et elle a vu cette réponse au milieu de son cours d'histoire. J'arrive pas totalement à l'expliquer, mais c'est une réalité que j'accepte par la foi. C'est une réalité que j'accepte par la foi. Et j'avais été admiratif de cette confession de ma prof de français à l'école publique. Alors, après vous avoir donné une esquisse de définition de la Trinité, vous allez peut-être vous poser la question, mais pourquoi en parler ? Pourquoi en parler ? La Trinité, ça peut sembler assez philosophique, abstrait, compliqué. Et puis on peut se poser la question aussi, qu'est-ce que ça nous apporte d'en parler ? Pourquoi est-ce que je suis venu depuis Vevey pour vous partager cela, un jour où il y a les 20 km de Lausanne ? J'aimerais dire d'abord que Dieu nous dépasse complètement. Notre esprit, notre langage sont dépassés par Dieu. Et tout ce que je vous ai dit avant ça, c'est limité. Et j'en ai bien conscience. Je prétends pas avoir résolu, contrairement à la boutade que j'ai fait avant, j'ai pas résolu le mystère de la Trinité avec ces quelques lignes. On essaie le plus possible de dire qui est Dieu, mais on échoue forcément à le décrire parfaitement. Pourtant, la Bible nous dit quelque chose de ce mystère. Il y a eu le texte que je vous ai lu avant, mais il y a un autre texte que peut-être certains d'entre vous connaissent un petit peu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça vous dit quelque chose ? La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Dès les premières phrases de la Bible, nous avons un aperçu de la Trinité. Dieu créateur, l'Esprit de Dieu qui plane sur l'eau et la parole qui est associée plus tard dans l'évangile de Jean à son Fils, par laquelle cette parole, par laquelle la lumière et tout le reste sera créé. Alors la première raison de parler de la Trinité, c'est parce que Dieu décide d'en parler. Alors si Dieu décide d'en parler, ça veut dire que c'est intéressant. Si Dieu décide de nous le révéler, si Dieu décide de nous donner un aperçu de ce mystère, de quel droit pourrait-on lui dire « Oh, ça ne m'intéresse pas ». La deuxième raison pour laquelle il est important de parler de la Trinité, c'est que connaître Dieu est le grand projet de notre vie. Connaître Dieu est le grand projet de notre vie. Il y a quelques années, je faisais mes études de théologie à la faculté Jean Calvin à Aix-en-Provence, pour ceux qui connaissent. Et puis on avait une conférence à peu près au milieu de l'année, et des invités venaient, des personnes des églises alentours. Et puis à un moment, on se trouvait avec une dizaine d'étudiants de la faculté et on discutait en cercle. Et là, une dame, très gentiment, vient vers nous. Et à chacun des étudiants, elle demande son prénom. « Comment t'appelles-tu » Et elle vient nous serrer la main. « Comment t'appelles-tu » Et elle vient nous serrer la main, nous demander comment on s'appelle. Et elle fait comme ça le tour de tout le groupe. Et on s'est dit « Mais ça, c'est vraiment sympa ». Venir à notre rencontre, s'intéresser à nous, nous demander notre prénom. Et à la fin du tour, elle nous regarde et elle dit « Bon, je suis venu parce que j'ai besoin d'aide pour porter des tables. » Et là, j'ai compris sa motivation à venir vers nous. Alors on rigole, mais est-ce qu'on n'est pas comme ça avec Dieu souvent? On se pose la question, mais qu'est-ce qui peut bien m'apporter? Alors ça nous pousse à nous intéresser à des sujets très concrets, hein. Comment vivre la foi en famille? Comment vaincre ma colère? Comment avoir confiance en Dieu dans mon travail, dans mes défis, dans mes études? Et ce sont des sujets importants. Je me réjouis qu'on en parle. Mais ultimement, il renvoie beaucoup à nous, à nos défis, à nos problèmes et à nos joies. Le projet de Dieu, c'est aussi qu'on se décentre de nous-mêmes et qu'on regarde à lui, qu'on s'intéresse à lui, qu'on le connaisse et qu'on l'aime pour qui il est. Alors la première question n'est pas de savoir qu'est-ce que je vais y gagner, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça change à ma vie, même si ce sont des questions importantes. Mais la première question c'est comment puis-je connaître toujours plus et toujours mieux ce Dieu qui m'a créé pour lui. Et parler de la Trinité, c'est justement apprendre à connaître, apprendre à aimer, découvrir un peu plus ce Dieu qui nous a créés pour lui. Et vous savez quoi? En apprenant à connaître Dieu, il y a quelques effets collatéraux intéressants. En apprenant à le connaître, ça va changer des choses dans nos relations, dans nos pensées, dans nos attitudes, dans nos familles, dans nos émotions. Cette relation avec lui va avoir plein d'effets après dans nos vies. Première raison de parler de la Trinité, Dieu décide d'en parler. Deuxième raison, connaître Dieu est le grand projet de notre vie. Et troisième raison, le mystère de la Trinité nous enseigne l'humilité et la confiance. Et j'ai envie de dire, justement, parce que la Trinité est un mystère, cela nous enseigne l'humilité et la confiance. Je discutais avec un pasteur il y a quelques années qui me faisait cette réflexion, une chose qu'il avait observée en accompagnement pastoral. Ceux qui ont un problème avec la Trinité ont souvent un problème avec l'orgueil, notamment l'orgueil intellectuel. C'est difficile de concevoir la Trinité. Ça nous dépasse et ça met notre intelligence en échec. La Trinité, c'est ce qui nous empêche de mettre Dieu dans une petite boîte qu'on maîtrise complètement. Ça nous apprend l'humilité et ça nous apprend aussi la confiance. Comme cette professeure de français il y a quelques années qui nous avait dit « C'est un mystère que je reçois par la foi. J'ai confiance. » Alors, il y a eu dans l'histoire de nombreux exemples de courants de pensée qui, face à ce mystère de la Trinité, ont décidé de le rejeter pour adopter des approches plus rationnelles, plus cohérentes. Une en particulier s'appelle le modalisme, avec l'idée de dire « Dieu se révèle comme Dieu dans l'Ancien Testament, puis après, il prend un autre masque, il change un peu de nom, et puis il se révèle comme le Fils dans les Évangiles, puis après, à partir de la Pentecôte, hop, il change de nom, il change de masque, et il se révèle comme l'Esprit-Saint. Selon les périodes, Dieu se révèle sous un autre nom et avec une autre facette de qui il est. Le Père, le Fils, l'Esprit sont juste diverses manifestations de Dieu à travers les époques, à travers l'histoire. C'est logique, c'est cohérent, c'est plus facilement compréhensible que ce que je vous ai dit au début, n'est-ce pas? Mais ça passe complètement à côté de quelque chose de fondamental que le premier texte biblique nous dit et que j'aimerais vous relire. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Le texte biblique nous parle d'un Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en relation. Ce n'est pas juste un autre nom pour désigner Dieu à une autre époque, ce n'est pas juste une autre manifestation. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont en relation. Le Père dit son amour au Fils, et le Saint-Esprit va de l'un à l'autre. Dieu est dans une relation d'amour au sein même de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont unis par cet amour. Ils vivent dans cette relation, dans cette communion. Plus que cela, et c'est ce que dira Jean aussi, Dieu est amour. Dieu est relation, Dieu est amour. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que la priorité absolue pour celui ou celle qui veut connaître Dieu et lui ressembler, c'est la relation et c'est l'amour. Et j'aimerais vous proposer ce critère pour tous vos projets, pour toutes vos idées, et globalement pour toutes vos orientations de vie. Est-ce que cela construit ma relation avec Dieu et mon amour pour lui ? Est-ce que cela construit ma relation avec l'autre et mon amour pour l'autre ? Si je viens prêcher ici ce matin sans amour, alors ce que je fais n'a aucune valeur, parce que je ne reflète pas la Trinité, un Dieu qui est en relation d'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si quelqu'un s'engage en Église, donne 20 heures par semaine pour la louange, la sono, la présidence, l'enfance, mais que ce n'est pas fait dans l'amour, il ne reflète pas, elle ne reflète pas le Dieu trinitaire qui est amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors faisons bien de nous rappeler de la nature même de Dieu, de sa façon d'être en relation au sein de la Trinité, quand nous réfléchissons à nos priorités, à nos projets, à nos décisions et à nos vies de manière générale. Voilà comment on peut résumer le projet de Dieu pour nous. Dieu veut nous intégrer à cette relation d'amour qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans le texte, le Père dit à Jésus « Voici mon Fils bien-aimé ». Mais la promesse pour tous ceux qui croient en Christ, c'est qu'ils seront aussi appelés fils bien-aimés. Est-ce que vous avez déjà été confronté à un groupe de personnes dont vous voyez qu'elles ont une relation très proche ? Ils ont une belle relation. Mais en même temps, vous vous dites, je ne ferai jamais partie de ce groupe. Ils sont trop exclusifs. Ils sont entre eux. Leur relation est belle. Peut-être qu'elle me donne envie. Mais je sens que je ne serai jamais accueilli dans cette relation. Eh bien, Dieu n'est pas comme ça. Dieu, en nous montrant un aperçu de la relation qui existe entre le Père, le Fils et l'Esprit, il nous invite à y entrer. Il nous invite à y participer. J'ai entendu des fois des gens dire « Dieu avait besoin de quelqu'un à aimer, alors il nous a créés. » Non. Dans la Trinité, Dieu est amour et vit l'amour parfait. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un à aimer. Dieu n'est pas en manque d'attention, il n'est pas en manque d'affection, il n'est pas en manque de reconnaissance. Dieu n'a pas de carence émotionnelle ou affective. Si le Père nous crée, si le Fils nous sauve, si le Saint-Esprit vient nous remplir et nous transformer, c'est dans un acte de générosité pure. C'est parce qu'il veut nous partager l'amour qui existe au sein de la Trinité. Nous, par contraste, on est souvent dans la logique de combler ce qui nous manque. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, par exemple, de parler, pas parce que vous avez quelque chose à dire, mais surtout parce que vous avez envie d'être écouté. Ou d'entrer dans une relation, pas pour donner de l'amour, mais surtout pour en recevoir. Ou de vous engager, pas pour servir, mais pour qu'on voit que vous servez. Vous allez me dire, mais c'est normal, c'est humain, on a ses besoins qu'on doit combler. Mais Dieu dépasse cette logique. Dieu est dans la logique du don. Il ne lui manque rien, et pourtant il donne. Et en apprenant à le connaître et à lui ressembler, nous pouvons nous aussi rentrer toujours plus dans cette logique du don. En étant toujours plus conscient et rempli de son amour, nous pouvons à notre tour donner, non pas d'abord parce qu'on a quelque chose à gagner, mais pour offrir à Dieu et à l'autre. Comme Dieu, au sein de la Trinité, a décidé de nous offrir et de nous partager l'amour parfait qu'il vit de toute éternité. Alors j'aimerais conclure en disant que étudier la Trinité, c'est pas si mal finalement. Peut-être que vous serez d'accord avec moi. Parce qu'en étudiant la Trinité, en parlant de la Trinité, en méditant sur la Trinité, nous sommes appelés à grandir dans cette connaissance et dans cette relation intime et personnelle avec Dieu, qui est le grand projet de notre vie. Nous sommes appelés aussi, puisque Dieu est amour et qu'il est en relation, à faire de l'amour et de la relation le critère de nos vies et de nos projets. Et nous sommes aussi, comme lui-même l'est, appelés à entrer dans la logique du don. Lui-même se donne en Jésus-Christ. Il nous invite à partager l'amour qu'il vit dans la Trinité, à y participer. Et il nous appelle, nous aussi, à nous donner, à sortir de peut-être du petit cocon, du groupe confortable dans lequel on est, pour être dans la logique de partager, de laisser l'autre participer et d'être dans ce mouvement du don. Amen. Amen.